Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 2, suite 3. J'aurais dû partir ce soir-là, sans jamais la revoir. Je pressentais dès lors que, dans l'amour non partagé, autant dire dans l'amour, car il est des êtres pour qui il n'est pas d'amour partagé, on peut goûter du bonheur seulement ce simulacre qui m'en était donné à un de ces moments uniques dans lesquels la bonté d'une femme, ou son caprice, ou le hasard, applique sur nos désirs, en une coïncidence parfaite, les mêmes paroles, les mêmes actions que si nous étions vraiment aimés. La sagesse eût été de considérer avec curiosité, de posséder avec délice cette petite parcelle de bonheur, à défaut de laquelle je serais mort sans avoir soupçonné ce qu'il peut être pour des cœurs moins difficiles ou plus favorisés. De supposer qu'elle faisait partie d'un bonheur vaste et durable qui m'apparaissait en ce point seulement. Et, pour que le lendemain n'inflige pas un démenti à cette feinte, de ne pas chercher à demander une faveur de plus après celle qui n'avait été due qu'à l'artifice d'une minute d'exception. J'aurais dû quitter Balbec, m'enfermer dans la solitude, y rester en harmonie avec les dernières vibrations de la voix que j'avais su rendre un instant amoureuse, et de qui je n'aurais plus rien exigé que de ne pas s'adresser davantage à moi, de peur que, par une parole nouvelle qui n'eût pu désormais être que différente, elle vint blesser d'une dissonance le silence sensitif, ou, comme grâce à quelques pédales, aurait pu survivre longtemps en moi la tonalité du bonheur. Tranquillisée par mon explication avec Albertine, je recommençais à vivre davantage auprès de ma mère. Elle aimait à me parler doucement du temps où ma grand-mère était plus jeune. Craignant que je ne me fisse des reproches sur les tristesses dont j'avais pu assombrir la fin de sa vie, elle revenait volontiers aux années où mes premières études avaient causé à ma grand-mère des satisfactions que jusqu'ici on m'avait toujours cachées. Nous reparlions de Combray. Ma mère me dit que là-bas, du moins, je lisais, et qu'à Balbec, je devrais bien faire de même, si je ne travaillais pas. Je répondis que, pour m'entourer justement des souvenirs de Combray et des jolies assiettes peintes, j'aimerais relire les mille et une nuits. Comme jadis à Combray, quand elle me donnait des livres pour ma fête, c'est en cachette, pour me faire une surprise, que ma mère me fit venir à la fois les mille et une nuits de Galland et les mille et une nuits de Mardru. Mais après avoir jeté un coup d'œil sur les deux traductions, ma mère aurait bien voulu que je m'en tinsse à celle de Galland, tout en craignant de m'influencer, à cause du respect qu'elle avait de la liberté intellectuelle, de la peur d'intervenir maladroitement dans la vie de ma pensée, et du sentiment qu'étant une femme, d'une part, elle manquait, croyait-elle, de la compétence littéraire qu'il fallait, d'autre part, qu'elle ne devait pas juger d'après ce qui la choquait les lectures d'un jeune homme. En tombant sur certains contes, elle avait été révoltée par l'immoralité du sujet et la crudité de l'expression. Mais surtout, conservant précieusement comme des reliques, non pas seulement la broche, l'entouka, le manteau, le volume de Madame de Sévigné, mais aussi les habitudes de pensée et de langage de sa mère, cherchant en toute occasion quelle opinion celle-ci eût émise, ma mère ne pouvait douter de la condamnation que ma grand-mère eût prononcée contre le livre de Mardru. Elle se rappelait qu'à Combray, tandis qu'avant de partir marcher du côté de mes églises, je lisais Augustin Thierry, ma grand-mère, contente de mes lectures, de mes promenades, s'indignait pourtant de voir celui dont le nom restait attaché à cet hémistiche. Puis règne Mérovée, appelé Mérowig, refusait de dire carolingien pour les carlovingiens, auxquels elle restait fidèle. Enfin, je lui avais raconté ce que ma grand-mère avait pensé des noms grecs que Bloch, d'après le comte de Lille, donnait au dieu d'Homère, allant même, pour les choses les plus simples, à se faire un devoir religieux, en lequel il croyait que consistait le talent littéraire, d'adopter une orthographe grecque. Ayant, par exemple, à dire dans une lettre que le vin qu'on buvait chez lui était un vrai nectar, il écrivait un vrai nectar avec un K, ce qui lui permettait de ricaner au nom de Lamartine. Or, si une Odyssée, d'où étaient absents les noms d'Ulysse et de Minerve, n'était plus pour elle l'Odyssée, qu'aurait-elle dit en voyant déjà déformé sur la couverture le titre de ses 1001 nuits, en ne retrouvant plus, exactement transcrit comme elle avait été de tout temps habituée à les lire, les noms immortellement familiers de Scheherazade, de Dirnazade, ou débaptisés eux-mêmes, si l'on ose employer le mot pour des contes musulmans, le charmant calife et les puissants génies se reconnaissaient à peine, étant appelés l'un le califat, les autres les génies. Pourtant, ma mère me remit les deux ouvrages, et je lui dis que je les lirai les jours où je serai trop fatiguée pour me promener. Ces jours-là n'étaient pas très fréquents, d'ailleurs. Nous allions goûter, comme autrefois, en bande, Albertine, ses amis et moi, sur la falaise ou à la ferme Marie-Antoinette. Mais il y avait des fois où Albertine me donnait ce grand plaisir. Elle me disait « Aujourd'hui, je veux être un peu seule avec vous. Ce sera plus gentil de se voir tous les deux. » Alors, elle disait qu'elle avait affaire, que, d'ailleurs, elle n'avait pas de compte à rendre, et pour que les autres, si elles allaient tout de même sans nous se promener et goûter, ne pussent pas nous retrouver, nous allions, comme deux amants, tout seuls à Bagatelle ou à la Croix de l'An, pendant que la bande, qui n'aurait jamais eu l'idée de nous chercher là et n'y allait jamais, restait indéfiniment, dans l'espoir de nous voir arriver, à Marie-Antoinette. Je me rappelle les temps chauds qu'il faisait alors, où du front des garçons de ferme, travaillant au soleil, une goutte de sueur tombait, verticale, régulière, intermittente, comme la goutte d'eau d'un réservoir, et alternait avec la chute du fruit mûr qui se détachait de l'arbre dans les clos voisins. Ils sont restés, aujourd'hui encore, avec ce mystère d'une femme cachée, la part la plus consistante de tout amour qui se présente pour moi. Une femme dont on me parle et à laquelle je ne songerai pas un instant, je dérange tous les rendez-vous de ma semaine pour la connaître, si c'est une semaine où il fait un de ces temps-là, et si je dois la voir dans quelque ferme isolée. J'ai beau savoir que ce genre de temps et de rendez-vous n'est pas d'elle, c'est l'appât, pourtant bien connu de moi, auquel je me laisse prendre et qui suffit pour m'accrocher. Je sais que cette femme, par un temps froid, dans une ville, j'aurais pu la désirer, mais sans accompagnement de sentiments romanesques, sans devenir amoureux. L'amour n'en est pas moins fort une fois que, grâce à des circonstances, il m'a enchaîné. Il est seulement plus mélancolique, comme le deviennent dans la vie nos sentiments pour des personnes, au fur et à mesure que nous nous apercevons davantage de la part de plus en plus petite qu'elles y tiennent, et que l'amour nouveau que nous souhaiterions si durable, abrégé en même temps que notre vie même, sera le dernier. Il y avait encore peu de monde à Balbec, peu de jeunes filles. Quelquefois, j'en voyais telle ou telle arrêtée sur la plage, sans agrément, et que pourtant bien des coïncidences semblaient certifier être la même que j'avais été désespérée de ne pouvoir approcher au moment où elle sortait avec ses amis du manège ou de l'école de gymnastique. Si c'était la même, et je me gardais d'en parler à Albertine, la jeune fille que j'avais crue enivrante n'existait pas. Mais je ne pouvais arriver à une certitude, car le visage de ces jeunes filles n'occupait pas sur la plage une grandeur, n'offrait pas une forme permanente, contractée, dilatée, transformée qu'il était par ma propre attente, l'inquiétude de mon désir ou un bien-être qui se suffit à lui-même, les toilettes différentes qu'elles portaient, la rapidité de leur marche ou leur immobilité. De tout près, pourtant, deux ou trois me semblaient adorables. Chaque fois que je voyais une de celles-là, j'avais envie de l'emmener dans l'avenue des Tamaris, ou dans les dunes, mieux encore sur la falaise. Mais bien que dans le désir, par comparaison avec l'indifférence, il entre déjà cette audace, qui est un commencement, même unilatéral, de réalisation, tout de même, entre mon désir et l'action que serait ma demande de l'embrasser, il y avait tout le blanc indéfini de l'hésitation, de la timidité. Alors, j'entrai chez le pâtissier limonadier. Je buvais l'un après l'autre 7 à 8 verres de Porto. Aussitôt, au lieu de l'intervalle impossible à combler entre mon désir et l'action, l'effet de l'alcool traçait une ligne qui les conjoignait tous deux. Plus de place pour l'hésitation ou la crainte. Il me semblait que la jeune fille allait voler jusqu'à moi. J'allais jusqu'à elle, de même sortait de mes lèvres « J'aimerais me promener avec vous. Vous ne voulez pas qu'on aille sur la falaise ? On n'y est dérangé par personne derrière le petit bois qui protège du vent la maison démontable actuellement inhabitée. » Toutes les difficultés de la vie étaient aplanies. Il n'y avait plus d'obstacles à l'enlacement de nos deux corps. Plus d'obstacles, pour moi du moins. Car il n'avait pas été volatilisé pour elle, qui n'avait pas bu de Porto. L'eût-elle fait, et l'univers eût-il perdu quelque réalité à ses yeux, le rêve longtemps chéri qui lui aurait alors paru soudain réalisable n'eût peut-être pas été du tout de tomber dans mes bras. Non seulement les jeunes filles étaient peu nombreuses, mais en cette saison, qui n'était pas encore la saison, elles restaient peu. Je me souviens d'une, au teint roux de Colaeus, aux yeux verts, aux deux joues rousses, et dont la figure double et légère ressemblait aux graines ailées de certains arbres. Je ne sais quelle brise l'amena à Balbec et quelle autre la remporta. Ce fut si brusquement que j'en eus pendant plusieurs jours un chagrin que j'osais avouer à Albertine quand je compris qu'elle était partie pour toujours. Il faut dire que plusieurs étaient ou des jeunes filles que je ne connaissais pas du tout ou que je n'avais pas vues depuis des années. Souvent, avant de les rencontrer, je leur écrivais. Si leur réponse me faisait croire à un amour possible, quelle joie ! On ne peut pas, au début d'une amitié pour une femme, et même si elle ne doit pas se réaliser par la suite, se séparer de ses premières lettres reçues. On les veut avoir tout le temps auprès de soi, comme de belles fleurs reçues, encore toutes fraîches, et qu'on ne s'interrompt de regarder que pour les respirer de plus près. La phrase qu'on sait par cœur est agréable à relire, et dans celle moins littéralement apprise, on veut vérifier le degré de tendresse d'une expression. A-t-elle écrit « Votre chère lettre » ? Petite déception dans la douceur qu'on respire, et qui doit être attribuée soit à ce qu'on a lu trop vite, soit à l'écriture illisible de la correspondante. Elle n'a pas mis « Et votre chère lettre », mais « En voyant cette lettre ». Mais le reste est si tendre. Oh, que de pareilles fleurs viennent demain. Puis, cela ne suffit plus. Il faudrait aux mots écrits confronter les regards, la voix. On prend rendez-vous, et sans qu'elle ait changé peut-être, là où on croyait, sur la description faite ou le souvenir personnel, rencontrer la fée Viviane, on trouve le chat beauté. On lui donne rendez-vous pour le lendemain quand même, car c'est tout de même elle, et ce qu'on désirait, c'est elle. Or, ces désirs pour une femme dont on a rêvé ne rendent pas absolument nécessaire la beauté de tel trait précis. Ces désirs sont seulement le désir de tel être, vagues comme des parfums, comme le styrax était le désir de Protyraya, le safran le désir éthéré, les aromates le désir d'Héra, la myrrhe le parfum des mages, la manne, le désir de niquer, l'encens, le parfum de la mer. Mais ces parfums que chantent les hymnes orphiques sont bien moins nombreux que les divinités qu'ils chérissent. La myrrhe est le parfum des mages, mais aussi de Protogonos, de Neptune, de Nérée, de Leto. L'encens est le parfum de la mer, mais aussi de la belle Dike, de Thémis, de Circé, des neuf muses, d'Éos, de Mnémosyne, du jour, de Dicaeosuné. Pour le styrax, la manne et les aromates, on n'en finirait pas de dire les divinités qui les inspirent, tant elles sont nombreuses. Amphiétès a tous les parfums, excepté l'encens. Et Gaïa rejette uniquement les fèves et les aromates. Ainsi en était-il de ces désirs de jeune fille que j'avais. Moins nombreux qu'elles n'étaient, ils se changeaient en des déceptions et des tristesses assez semblables les unes aux autres. Je n'ai jamais voulu de la myrrhe. Je l'ai réservée pour Jupien et pour la princesse de Guermantes, car elle est le désir de Protogonos aux deux sexes, ayant le mugissement du taureau, aux nombreuses orgies, mémorables, inénarrables, descendants, joyeux, vers les sacrifices des orgiophantes. Mais bientôt, la saison battit son plein. C'était tous les jours une arrivée nouvelle, et à la fréquence subitement croissante de mes promenades, remplaçant la lecture charmante des mille et une nuits, il y avait une cause dépourvue de plaisir et qui les empoisonnait tous. La plage était maintenant peuplée de jeunes filles, et l'idée que m'avait suggérée Cottard, m'ayant, non pas fourni de nouveaux soupçons, mais rendu sensible et fragile de ce côté, et prudent à ne pas en laisser se former en moi, dès qu'une jeune femme arrivait à Balbec, je me sentais mal à l'aise. Je proposai à Albertine les excursions les plus éloignées, afin qu'elle ne pût faire la connaissance, et même, si c'était possible, pût ne pas recevoir la nouvelle venue. Je redoutais naturellement davantage encore celle dont on remarquait le mauvais genre, ou connaissait la mauvaise réputation. Je tâchais de persuader à mon amie que cette mauvaise réputation n'était fondée sur rien, était calomnieuse. Peut-être sans me l'avouer, par une peur, encore inconsciente, qu'elle cherchât à se lier avec la dépravée, ou qu'elle regretta de ne pouvoir la chercher, à cause de moi, ou qu'elle crut, par le nombre des exemples, qu'un vice si répandu n'est pas condamnable. En le niant de chaque coupable, je ne tendais pas à moins qu'à prétendre que le saphisme n'existe pas. Albertine adoptait mon incrédulité pour le vice de tel et tel. « Non, je crois que c'est seulement un genre qu'elle cherche à se donner. C'est pour faire du genre. » Mais alors, je regrettais presque d'avoir plaidé l'innocence, car il me déplaisait qu'Albertine, si sévère autrefois, pût croire que ce « genre » fut quelque chose d'assez flatteur, d'assez avantageux, pour qu'une femme, exempte de ses goûts, eût cherché à s'en donner l'apparence. J'aurais voulu qu'aucune femme ne vînt plus à Balbec. Je tremblais en pensant que, comme c'était à peu près l'époque où Madame Pudbus devait arriver chez les Verdurin, sa femme de chambre, dont Saint-Loup ne m'avait pas caché les préférences, pourrait venir excursionner jusqu'à la plage. Et si c'était un jour où je n'étais pas auprès d'Albertine, essayer de la corrompre. J'arrivais à me demander, comme Cottard ne m'avait pas caché que les Verdurin tenaient beaucoup à moi, et tout en ne voulant pas avoir l'air, comme il disait, de me courir après, aurait donné beaucoup pour que j'allasse chez eux. Si je ne pourrais pas, moyennant les promesses de leur amener à Paris tous les Guermantes du monde, obtenir de Madame Verdurin que, sous un prétexte quelconque, elle prévint Madame Pudbus qu'il lui était impossible de la garder chez elle, et la fit repartir au plus vite. Malgré ses pensées, et comme c'était surtout la présence d'André qui m'inquiétait, l'apaisement que m'avaient procuré les paroles d'Albertine persistait encore un peu. Je savais d'ailleurs que bientôt j'aurais moins besoin de lui. André devant partir avec Rosemonde et Gisèle, presque au moment où tout le monde arrivait, et n'ayant plus à rester auprès d'Albertine que quelques semaines. Pendant celle-ci d'ailleurs, Albertine sembla combiner tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, en vue de détruire mes soupçons, s'il m'en restait, ou de les empêcher de renaître. Elle s'arrangeait à ne jamais rester seule avec André, et insistait, quand nous rentrions, pour que je l'accompagnasse jusqu'à sa porte, pour que je vinsse l'y chercher quand nous devions sortir. André, cependant, prenait de son côté une peine égale, semblait éviter de voir Albertine. Et cette apparente entente entre elles n'était pas le seul indice qu'Albertine avait dû mettre son amie au courant de notre entretien, et lui demander d'avoir la gentillesse de calmer mes absurdes soupçons. Vers cette époque, se produisit au grand hôtel de Balbec un scandale qui ne fut pas pour changer la pente de mes tourments. La sœur de Bloch avait depuis quelque temps, avec une ancienne actrice, des relations secrètes qui bientôt ne leur suffirent plus. Être vue leur semblait ajouter de la perversité à leur plaisir. Elles voulaient faire baigner leur dangereux ébat dans les regards de tous. Cela commença par des caresses qu'on pouvait en somme attribuer à une intimité amicale, dans le salon de jeu, autour de la table de baccarat. Puis elles s'enhardirent, et enfin un soir, dans un coin pas même obscur de la grande salle de danse, sur un canapé, elles ne se gênèrent pas plus que si elles avaient été dans leur lit. Deux officiers, qui étaient non loin de là avec leurs femmes, se plaignirent au directeur. On crut un moment que leurs protestations auraient quelque efficacité. Mais ils avaient contre eux que, venus pour un soir de Netteholm, où ils habitaient, à Balbec, ils ne pouvaient en rien être utiles au directeur. Tandis que, même à son insu, et quelque observation que lui fit le directeur, planait sur Mademoiselle Bloch la protection de M. Nissim Bernard. Il faut dire pourquoi M. Nissim Bernard pratiquait au plus haut point les vertus de famille. Tous les ans, il louait à Balbec une magnifique villa pour son neveu, et aucune invitation n'aurait pu le détourner de rentrer dîner dans son chez-lui, qui était en réalité leur chez-eux. Mais jamais il ne déjeunait chez lui. Tous les jours, il était à midi au grand hôtel. C'est qu'il entretenait, comme d'autres, un rat d'opéra, un commis, assez pareil à ces chasseurs dont nous avons parlé, et qui nous faisait penser aux jeunes Israélites d'Esther et d'Athalie. À vrai dire, les 40 années qui séparaient M. Nissim Bernard du jeune commis auraient dû préserver celui-ci d'un contact peu aimable. Mais, comme le dit Racine avec tant de sagesse dans les mêmes cœurs, mon Dieu, qu'une vertu naissante parmi tant de périls marche à pas incertains. Qu'une âme qui te cherche et veut être innocente trouve d'obstacles à ses desseins. Le jeune commis avait eu beau être loin du monde élevé, dans le temple-palace de Balbec, il n'avait pas suivi le conseil de Joad. Sur la richesse et l'or, ne mets point ton appui. Ils étaient peut-être fait une raison en disant « Les pêcheurs couvrent la terre ». Quoi qu'il en fût, et bien que M. Nissim Bernard n'espérât pas un délai aussi court, dès le premier jour, et soit frayeur encore ou pour le caresser, de ses bras innocents il se sentit pressé. Et dès le deuxième jour, M. Nissim Bernard promenant le commis, l'abord contagieux altérait son innocence. Dès lors, la vie du jeune enfant avait changé. Il avait beau porter le pain et le sel, comme son chef de rang le lui commandait, tout son visage chantait. De fleurs en fleurs, de plaisirs en plaisirs, promenons nos désirs. De nos ans passagers, le nombre est incertain. Hâtons-nous aujourd'hui de jouir de la vie. L'honneur et les emplois sont le prix d'une aveugle et basse obéissance pour la triste innocence qui voudrait élever la voix. Depuis ce jour-là, M. Nissim Bernard n'avait jamais manqué de venir occuper sa place au déjeuner, comme l'eût fait à l'orchestre quelqu'un qui entretient une figurante. Une figurante, celle-là, d'un genre fortement caractérisé, et qui attend encore son Degas. C'était le plaisir de M. Nissim Bernard de suivre dans la salle à manger et jusque dans les perspectives lointaines où, sous son palmier, trônait la caissière, les évolutions de l'adolescent empressé au service de tous, et moins de M. Nissim Bernard depuis que celui-ci l'entretenait. Soit que le jeune enfant de cœur ne crût pas nécessaire de témoigner la même amabilité à quelqu'un de qui il se croyait suffisamment aimé, soit que cet amour l'irrita, ou qu'il craignit que, découvert, il lui fît manquer d'autres occasions. Mais cette froideur même plaisait à M. Nissim Bernard, par tout ce qu'elle dissimulait, que ce fût par atavisme hébraïque ou par profanation du sentiment chrétien, il se plaisait singulièrement, qu'elle fût juive ou catholique, à la cérémonie racinienne. Si elle eût été une véritable représentation d'Esther ou d'Athalie, M. Bernard eût regretté que la différence des siècles ne lui eût pas permis de connaître l'auteur, Jean Racine, afin d'obtenir pour son protégé un rôle plus considérable. Mais la cérémonie du déjeuner n'émanant d'aucun écrivain, il se contentait d'être en bon terme avec le directeur et avec Aimé, pour que le jeune Israélite fût promu aux fonctions souhaitées, ou de demi-chef, ou même de chef de rang. Celle du sommelier lui avait été offerte, mais M. Bernard l'obligea à les refuser, car il n'aurait plus pu venir chaque jour le voir courir dans la salle à manger verte et se faire servir par lui comme un étranger. Or, ce plaisir était si fort que tous les ans, M. Bernard revenait à Balbec et y prenait son déjeuner hors de chez lui. Habitude où M. Bloch voyait, dans la première, un goût poétique pour la belle lumière, les couchers de soleil de cette côte préférée à toute autre, et dans la seconde, une manie invétérée de vieux célibataire. À vrai dire, cette erreur des parents de M. Nissim Bernard, lesquels ne soupçonnaient pas la vraie raison de son retour annuel à Balbec, et ce que la pédante Mme Bloch appelait ses découchages en cuisine, cette erreur était une vérité plus profonde et du second degré. Car M. Nissim Bernard ignorait lui-même ce qu'il pouvait entrer d'amour de la plage de Balbec, de la vue qu'on avait, du restaurant sur la mer, et d'habitude maniaque, dans le goût qu'il avait d'entretenir, comme un rat d'opéra d'une autre sorte, à laquelle il manque encore un Degas, l'un de ses servants qui était encore des filles. Aussi, M. Nissim Bernard entretenait-il avec le directeur de ce théâtre, qui était l'hôtel de Balbec, et avec le metteur en scène et régisseur Aimé, desquels le rôle en toute cette affaire n'était pas des plus limpides, d'excellentes relations. On intriguerait un jour pour obtenir un grand rôle, peut-être une place de maître d'hôtel. En attendant, le plaisir de M. Nissim Bernard, si poétique et calmement contemplatif qu'il fût, avait un peu le caractère de ces hommes à femmes qui savent toujours, Swann jadis par exemple, qu'en allant dans le monde, ils vont retrouver leur maîtresse. À peine M. Nissim Bernard serait-il assis qu'il verrait l'objet de ses vœux s'avancer sur la scène, portant à la main des fruits ou des cigares sur un plateau. Aussi, tous les matins, après avoir embrassé sa nièce, s'être inquiété des travaux de mon ami Bloch et donné à manger à ses chevaux des morceaux de sucre posés dans sa paume tendue, avait-il une hâte fébrile d'arriver pour le déjeuner au grand hôtel. Il y eut eu le feu chez lui, sa nièce eut eu une attaque, qu'il fût sans doute parti tout de même. Aussi craignait-il comme la peste un rhume pour lequel il eût gardé le lit, car il était hypochondriaque, et qui eut nécessité qu'il fît demander à Aimé de lui envoyer chez lui, avant l'heure du goûter, son jeune ami. Il aimait d'ailleurs tout le labyrinthe de couloirs, de cabinets secrets, de salons, de vestiaires, de garde-manger, de galeries, qu'était l'hôtel de Balbec. Par atavisme d'oriental, il aimait les sérails, et, quand il sortait le soir, on le voyait en explorer furtivement les détours. Tandis que, se risquant jusqu'au sous-sol et cherchant malgré tout à ne pas être vu et à éviter le scandale, M. Nissim Bernard, dans sa recherche des jeunes lévites, faisait penser à ces vers de la Juive. « Ô Dieu de nos pères, parmi nous descends, cache nos mystères à l'œil des méchants. » Je montais au contraire dans la chambre de deux sœurs qui avaient accompagné à Balbec, comme femme de chambre, une vieille dame étrangère. C'était ce que le langage des hôtels appelait « deux courrières », et celui de Françoise, laquelle s'imaginait qu'un courrier ou une courrière sont là pour faire des courses, « deux coursières ». Les hôtels, eux, en sont restés plus noblement, au temps où l'on chantait « c'est un courrier de cabinet ». Malgré la difficulté qu'il y avait pour un client à aller dans des chambres de courrières, et réciproquement, je m'étais très vite liée d'une amitié très vive, quoique très pure, avec ces deux jeunes personnes, Mademoiselle Marie Gineste et Madame Céleste Albaret. Nées au pied des hautes montagnes du centre de la France, au bord de ruisseaux et de torrents, l'eau passait même sous leur maison de famille où tournait un moulin et qui avait été dévasté plusieurs fois par l'inondation. Elles semblaient en avoir gardé la nature. Marie Gineste était plus régulièrement rapide et saccadée, Céleste Albaret plus molle et languissante, étalée comme un lac, mais avec de terribles retours de bouillonnement, où sa fureur rappelait le danger des crues et des tourbillons liquides qui entraînent tout, qui saccagent tout. Elle venait souvent, le matin, me voir quand j'étais encore couchée. Je n'ai jamais connu de personne aussi volontairement ignorante, qui n'avait absolument rien appris à l'école, et dont le langage eut pourtant quelque chose de si littéraire que, sans le naturel presque sauvage de leur ton, on aurait cru leurs paroles affectées. Avec une familiarité que je ne retouche pas, malgré les éloges, qui ne sont pas ici pour me louer, mais pour louer le génie étrange de Céleste, et les critiques, également fausses, mais très sincères, que ses propos semblent comporter à mon égard, tandis que je trempais des croissants dans mon lait, Céleste me disait « Oh, petit diable noir aux cheveux de jais ! Oh, profonde malice ! Je ne sais pas à quoi pensait votre mère quand elle vous a fait, car vous avez tout d'un oiseau. Regarde, Marie, est-ce qu'on ne dirait pas qu'il se lisse ses plumes et tourne son cou avec une souplesse ? Il a l'air tout léger. On dirait qu'il est en train d'apprendre à voler. Ah, vous avez de la chance que ceux qui vous ont créé vous aient fait naître dans le rang des riches. Qu'est-ce que vous seriez devenu, gaspilleur comme vous êtes ? Voilà qu'il jette son croissant parce qu'il a touché le lit. Allons bon, voilà qu'il répand son lait. Attendez que je vous mette une serviette, car vous ne sauriez pas vous y prendre. Je n'ai jamais vu quelqu'un de si bête et de si maladroit que vous. » On entendait alors le bruit, plus régulier, de torrents de Marie Gineste, qui, furieuse, faisait des réprimandes à sa sœur. « Allons, Céleste, veux-tu te taire ? Es-tu pas folle de parler à monsieur comme cela ?» Céleste n'en faisait que sourire. Et comme je détestais qu'on m'attachât une serviette, « Mais non, Marie, regarde-le ! Bing ! Voilà qu'il s'est dressé tout droit comme un serpent ! Un vrai serpent, je te dis !» Elle prodiguait du reste les comparaisons zoologiques, car, selon elle, on ne savait pas quand je dormais. Je voltigeais toute la nuit comme un papillon, et le jour j'étais aussi rapide que ces écureuils. « Tu sais, Marie, comme on en voit chez nous, si agile que même avec les yeux on ne peut pas les suivre !» Mais Céleste, tu sais qu'il n'aime pas avoir une serviette quand il mange. Mais ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ça, c'est pour bien dire qu'on ne peut pas lui changer sa volonté. C'est un seigneur et il veut montrer qu'il est un seigneur. On changera les draps 10 fois s'il le faut, mais il n'aura pas cédé. Ceux d'hier avaient fait leurs courses, mais aujourd'hui ils viennent seulement d'être mis, et déjà il faudra les changer. Ah, j'avais raison de dire qu'il n'était pas fait pour naître parmi les pauvres. Regarde, ses cheveux se hérissent, il se boursoufle par la colère, comme les plumes des oiseaux. Pauvre Ploumissou ! Ici, ce n'était pas seulement Marie qui protestait, mais moi, car je ne me sentais pas seigneur du tout. Mais Céleste ne croyait jamais à la sincérité de ma modestie, et, me coupant la parole, « Ah, sac à ficelle ! Ah, douceur ! Ah, perfidie ! Rusée entre les rusées ! Rosse des rosses ! Ah, Molière !» C'était le seul nom d'écrivain qu'elle connut, mais elle me l'appliquait, entendant par là quelqu'un qui serait capable à la fois de composer des pièces et de les jouer. « Céleste !» criait impérieusement Marie, qui, ignorant le nom de Molière, craignait que ce ne fût une injure nouvelle. Céleste se remettait à sourire. « Tu n'as donc pas vu dans son tiroir sa photographie quand il était enfant ? Il avait voulu nous faire croire qu'on l'habillait toujours très simplement. » Et là, avec sa petite canne, il n'est que fourrure et dentelle, comme jamais prince n'a eu. Mais ce n'est rien à côté de son immense majesté et de sa bonté encore plus profonde. Alors grondait le torrent Marie. « Voilà que tu fouilles dans ces tiroirs maintenant !» Pour apaiser les craintes de Marie, je lui demandai ce qu'elle pensait de ce que M. Nissim Bernard faisait. « Ah, monsieur, c'est des choses que je n'aurais pas pu croire que ça existait. Il a fallu venir ici. » Et, damant pour une fois le pion à Céleste par une parole plus profonde, « Ah, voyez-vous, monsieur, on ne peut jamais savoir ce qu'il peut y avoir dans une vie. » Pour changer de sujet, je lui parlai de celle de mon père, qui travaillait nuit et jour. « Ah, monsieur, ce sont des vies dont on ne garde rien pour soi. » Pas une minute, pas un plaisir. Tout, entièrement tout, est un sacrifice pour les autres. Ce sont des vies données. Regarde, Céleste, rien que pour poser sa main sur la couverture et prendre son croissant. Quelle distinction ! Il peut faire les choses les plus insignifiantes. On dirait que toute la noblesse de France, jusqu'aux Pyrénées, se déplace dans chacun de ses mouvements. Anéanti par ce portrait si peu véridique, je me taisais. Céleste voyait là une ruse nouvelle. Ah, front qui a l'air si pur et qui cache tant de choses. Joue amie et fraîche comme l'intérieur d'une amande. Petite main de satin tout pelucheux. Ongles comme des griffes. Etc. Tiens, Marie, regarde-le boire son lait, avec un recueillement qui me donne envie de faire ma prière. Quel air sérieux! On devrait bien tirer son portrait en ce moment. Il a tous les enfants. Est-ce de boire du lait comme eux qui vous a conservé leur teint clair? Ah, jeunesse! Ah, jolie peau! Vous ne vieillirez jamais. Vous avez de la chance. Vous n'aurez jamais à lever la main sur personne, car vous avez des yeux qui savent imposer leur volonté. Et puis le voilà en colère maintenant. Il se tient debout, tout droit comme une évidence. Françoise n'aimait pas du tout que celles qu'elle appelait les deux enjôleuses vinssent ainsi tenir conversation avec moi. Le directeur, qui faisait guetter par ses employés tout ce qui se passait, me fit même observer gravement qu'il n'était pas digne d'un client de causer avec des courrières. Moi qui trouvais les enjôleuses supérieures à toutes les clientes de l'hôtel, je me contentais de lui éclater de rire au nez, convaincue qu'il ne comprendrait pas mes explications. Et les deux sœurs revenaient. « Regarde, Marie, c'est très si fin. Oh, miniature parfaite, plus belle que la plus précieuse qu'on verrait sous une vitrine. Car il a les mouvements et des paroles à l'écouter des jours et des nuits. » c'est miracle qu'une dame étrangère ait pu les emmener. Car, sans savoir l'histoire ni la géographie, elle détestait de confiance les Anglais, les Allemands, les Russes, les Italiens, la vermine des étrangers, et n'aimait, avec des exceptions, que les Français. Leur figure avait tellement gardé l'humidité de la glaise malléable de leur rivière que, dès qu'on parlait d'un étranger qui était dans l'hôtel, pour répéter ce qu'il avait dit, Céleste et Marie appliquaient sur leur figure sa figure, leur bouche devenait sa bouche, leurs yeux ses yeux. On aurait voulu garder ces admirables masques de théâtre. Céleste même, en faisant semblant de ne redire que ce qu'avait dit le directeur, ou tel de mes amis, insérait dans son petit récit des propos fins où étaient peints malicieusement tous les défauts de Bloch, ou du premier président, etc., sans en avoir l'air. C'était, sous la forme de compte-rendu d'une simple commission dont elle s'était obligeamment chargée, un portrait inimitable. Elle ne lisait jamais rien, pas même un journal. Un jour, pourtant, elles trouvèrent sur mon lit un volume. C'était des poèmes admirables, mais obscurs, de Saint Léger Léger. Céleste lut quelques pages et me dit « Mais êtes-vous bien sûr que ce sont des vers? Est-ce que ce ne serait pas plutôt des devinettes ?» Évidemment, pour une personne qui avait appris dans son enfance une seule poésie, « Ici-bas, tous les lilas meurent », il y avait manque de transition. Je crois que leur obstination à ne rien apprendre tenait un peu à leur pays malsain. Elles étaient pourtant aussi douées qu'un poète, avec plus de modestie qu'ils n'en ont généralement. Car si Céleste avait dit quelque chose de remarquable, et que, ne me souvenant pas bien, je lui demandais de me le rappeler, elle assurait avoir oublié. Elles ne liront jamais de livres, mais n'en feront jamais non plus. Françoise fut assez impressionnée, en apprenant que les deux frères de ces femmes si simples avaient épousé, l'un la nièce de l'archevêque de Tours, l'autre une parente de l'évêque de Rodez. Au directeur, cela n'eut rien dit. Céleste reprochait quelquefois à son mari de ne pas la comprendre, et moi, je m'étonnais qu'il pût la supporter. Car à certains moments, frémissante, furieuse, détruisant tout, elle était détestable. On prétend que le liquide salé qu'est notre sang n'est que la survivance intérieure de l'élément marin primitif. Je crois de même que Céleste, non seulement dans ses fureurs, mais aussi dans ses heures de dépression, gardait le rythme des ruisseaux de son pays. Quand elle était épuisée, c'était à leur manière. Elle était vraiment à sec. Rien n'aurait pu alors la revivifier. Puis, tout d'un coup, la circulation reprenait dans son grand corps magnifique et léger. L'eau coulait dans la transparence opaline de sa peau bleuâtre. Elle souriait au soleil et devenait plus bleue encore. Dans ces moments-là, elle était vraiment céleste. La famille de Bloch avait beau n'avoir jamais soupçonné la raison pour laquelle son oncle ne déjeunait jamais à la maison, et avoir accepté cela dès le début comme une manie de vieux célibataire, peut-être pour les exigences d'une liaison avec quelque actrice, tout ce qui touchait à M. Nissim Bernard était tabou pour le directeur de l'hôtel de Balbec. Et voilà pourquoi, sans en avoir même référé à l'oncle, il n'avait finalement pas osé donner tort à la nièce, tout en lui recommandant quelques circonspections. Or, la jeune fille et son amie, qui pendant quelques jours s'étaient figurés être exclus du casino et du grand hôtel, voyant que tout s'arrangeait, furent heureuses de montrer à ceux des pères de famille qui les tenaient à l'écart qu'elles pouvaient impunément tout se permettre. Sans doute n'allèrent-elles pas jusqu'à renouveler la scène publique qui avait révolté tout le monde, mais peu à peu leurs façons reprirent insensiblement. Et un soir, où je sortais du casino à demi éteint, avec Albertine et Bloch, que nous avions rencontrés, elles passèrent enlacées, ne cessant de s'embrasser, et, arrivées à notre hauteur, poussèrent des gloussements, des rires, des cris indécents. Bloch baissa les yeux pour ne pas avoir l'air de reconnaître sa sœur. Et moi, j'étais torturée en pensant que ce langage particulier et atroce s'adressait peut-être à Albertine. Un autre incident fixa davantage encore mes préoccupations du côté de Gomorre. J'avais vu sur la plage une belle jeune femme, élancée et pâle, de laquelle les yeux, autour de leur centre, disposaient des rayons si géométriquement lumineux qu'on pensait, devant son regard, à quelques constellations. Je songeais combien cette jeune femme était plus belle qu'Albertine, et comme il était plus sage de renoncer à l'autre. Tout au plus, le visage de cette belle jeune femme était-il passé au rabot invisible d'une grande bassesse de vie, de l'acceptation constante d'expédients vulgaires, si bien que ses yeux, plus nobles pourtant que le reste du visage, ne devaient rayonner que d'appétits et de désirs. Or, le lendemain, cette jeune femme étant placée très loin de nous au casino, je vis qu'elle ne cessait de poser sur Albertine les feux alternés et tournants de ses regards. On eût dit qu'elle lui faisait des signes comme à l'aide d'un phare. Je souffrais que mon amie vît qu'on faisait si attention à elle. Je craignais que ses regards, incessamment allumés, n'eussent la signification conventionnelle d'un rendez-vous d'amour pour le lendemain. Qui sait ? Ce rendez-vous n'était peut-être pas le premier. La jeune femme aux yeux rayonnants avait pu venir une autre année à Balbec. C'était peut-être parce qu'Albertine avait déjà cédé à ses désirs, ou à ceux d'une amie, que celle-ci se permettait de lui adresser ses brillants signaux. Il faisait alors plus que réclamer quelque chose pour le présent. Il s'autorisait pour cela des bonnes heures du passé. Ce rendez-vous, en ce cas, ne devait pas être le premier, mais la suite de parties faites ensemble d'autres années. Et en effet, les regards ne disaient pas « Veux-tu ?» Dès que la jeune femme avait aperçu Albertine, elle avait tourné tout à fait la tête et fait luire vers elle des regards chargés de mémoire, comme si elle avait eu peur et stupéfaction que mon amie ne se souvint pas. Albertine, qui la voyait très bien, resta flegmatiquement immobile, de sorte que l'autre, avec le même genre de discrétion qu'un homme qui voit son ancienne maîtresse avec un autre amant, cessa de la regarder et de s'occuper plus d'elle que si elle n'avait pas existé. Mais quelques jours après, j'eus la preuve des goûts de cette jeune femme et aussi de la probabilité qu'elle avait connue Albertine autrefois. Souvent, quand, dans la salle du casino, deux jeunes filles se désiraient, il se produisait comme un phénomène lumineux, une sorte de traînée phosphorescente allant de l'une à l'autre. Disons en passant que c'est à l'aide de telles matérialisations, fussent-elles impondérables, par ces signes astraux enflammant toute une partie de l'atmosphère, que Gomorre, dispersée, tend dans chaque ville, dans chaque village, à rejoindre ses membres séparés, à reformer la cité biblique, tandis que partout les mêmes efforts sont poursuivis, fût-ce en vue d'une reconstruction intermittente, par les nostalgiques, par les hypocrites, et quelquefois par les courageux exilés de Sodome. Une fois, je vis l'inconnu qu'Albertine avait eu l'air de ne pas reconnaître, juste à un moment où passait la cousine de Bloch. Les yeux de la jeune femme s'étoilèrent, mais on voyait bien qu'elle ne connaissait pas la demoiselle israélite. Elle la voyait pour la première fois, éprouvait un désir, guère de doute. Nullement la même certitude qu'à l'égard d'Albertine. Albertine, sur la camaraderie de qui elle avait dû tellement compter, que, devant sa froideur, elle avait ressenti la surprise d'un étranger habitué de Paris, mais qui ne l'habite pas, et qui, étant revenu y passer quelques semaines, à la place du petit théâtre où il avait l'habitude de passer de bonnes soirées, voit qu'on a construit une banque. La cousine de Bloch alla s'asseoir à une table où elle regarda un magazine. Bientôt, la jeune femme vint s'asseoir d'un air distrait à côté d'elle. Mais sous la table, on aurait pu voir bientôt se tourmenter leurs pieds, puis leurs jambes et leurs mains qui étaient confondues. Les paroles suivirent, la conversation s'engagea, et le naïf mari de la jeune femme, qui la cherchait partout, fut étonné de la trouver, faisant des projets pour le soir même avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas. Sa femme lui présenta comme une amie d'enfance la cousine de Bloch, sous un nom inintelligible, car elle avait oublié de lui demander comment elle s'appelait. Mais la présence du mari fit faire un pas de plus à leur intimité, car elles se tutoyèrent, s'étant connues au couvent, incident dont elles rirent fort plus tard, ainsi que du mari Bernet, avec une gaieté qui fut une occasion de nouvelles tendresses. Quant à Albertine, je ne peux pas dire que nulle part, au casino, sur la plage, elle eut avec une jeune fille des manières trop libres. Je leur trouvais même un excès de froideur et d'insignifiance qui semblait plus que de la bonne éducation, une ruse destinée à dépister les soupçons. À telle jeune fille, elle avait une façon rapide, glacée et décente de répondre à très haute voix. « Oui, j'irai vers 5 heures au tennis. Je prendrai mon bain demain matin vers 8 heures. » Et de quitter immédiatement la personne à qui elle venait de dire cela, qui avait un terrible air de vouloir donner le change, et soit de donner un rendez-vous, soit plutôt, après l'avoir donné bas, de dire fort cette phrase, en effet insignifiante, pour ne pas se faire remarquer. Et quand ensuite je la voyais prendre sa bicyclette et filer à toute vitesse, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle allait rejoindre celle à qui elle avait à peine parlé. Tout au plus, lorsque quelque belle jeune femme descendait d'automobile au coin de la plage, Albertine ne pouvait-elle s'empêcher de se retourner. Et elle expliquait aussitôt « Je regardais le nouveau drapeau qu'ils ont mis devant les bains. Ils auraient pu faire plus de frais. L'autre était assez miteux, mais je crois vraiment que celui-ci est encore plus moche. » Une fois, Albertine ne se contenta pas de la froideur, et je n'en fus que plus malheureux. Elle me savait ennuyée qu'elle pût quelquefois rencontrer une amie de sa tante, qui avait mauvais genre, et venait quelquefois passer 2 ou 3 jours chez Madame Bontemps. Gentiment, Albertine m'avait dit qu'elle ne la saluerait plus. Et quand cette femme venait à Incarville, Albertine disait « À propos, vous savez qu'elle est ici. Est-ce qu'on vous l'a dit ?» Comme pour me montrer qu'elle ne la voyait pas en cachette. Un jour qu'elle me disait cela, elle ajouta « Oui, je l'ai rencontrée sur la plage, et exprès, par grossièreté, je l'ai presque frôlée en passant. Je l'ai bousculée. » Quand Albertine me dit cela, il me revint à la mémoire une phrase de Madame Bontemps, à laquelle je n'avais jamais repensé, celle où elle avait dit devant moi à Madame Swann combien sa nièce Albertine était effrontée, comme si c'était une qualité, et comment elle avait dit à je ne sais plus quelle femme de fonctionnaire que le père de celle-ci avait été marmiton. Mais une parole de celle que nous aimons ne se conserve pas longtemps dans sa pureté. Elle se gâte, elle se pourrit. 1 ou 2 soirs après, je repensais à la phrase d'Albertine. Et ce ne fut plus la mauvaise éducation dont elle s'enorgueillissait, et qui ne pouvait que me faire sourire, qu'elle me sembla signifier. C'était autre chose, et qu'Albertine, même peut-être sans but précis, pour irriter l'essence de cette dame, ou lui rappeler méchamment d'anciennes propositions, peut-être acceptée autrefois, l'avait frôlée rapidement. Pensait que je l'avais appris peut-être, comme c'était en public, et avait voulu d'avance prévenir une interprétation défavorable. Au reste, ma jalousie causée par les femmes qu'aimait peut-être Albertine allait brusquement cesser. Nous étions, Albertine et moi, devant la station Balbec du petit train d'intérêt local. Nous étions fait conduire par l'omnibus de l'hôtel à cause du mauvais temps. Non loin de nous était M. Nissim Bernard, lequel avait un œil poché. Il trompait depuis peu l'enfant des cœurs d'Athalie avec le garçon d'une ferme assez achalandée du voisinage, au cerisier. Ce garçon rouge, aux traits abrupts, avait absolument l'air d'avoir comme tête une tomate. Une tomate exactement semblable servait de tête à son frère jumeau. Pour le contemplateur désintéressé, il y a cela d'assez beau, dans ces ressemblances parfaites de deux jumeaux, que la nature, comme si elle s'était momentanément industrialisée, semble débiter des produits pareils. Malheureusement, le point de vue de M. Nissim Bernard était autre, et cette ressemblance n'était qu'extérieure. La tomate numéro 2 se plaisait avec frénésie à faire exclusivement les délices des dames. La tomate numéro 1 ne détestait pas condescendre au goût de certains messieurs. Or, chaque fois que, secouée, ainsi que par un réflexe, par le souvenir des bonnes heures passées avec la tomate numéro 1, M. Bernard se présentait au cerisier. Myope, et du reste, la myopie n'était pas nécessaire pour les confondre. Le vieil israélite, jouant sans le savoir amphitryon, s'adressait au frère jumeau et lui disait « Veux-tu me donner rendez-vous pour ce soir ?» Il recevait aussitôt une solide tournée. Elle vint même à se renouveler au cours d'un même repas où il continuait avec l'autre les propos commencés avec le premier. À la longue, elle le dégoûta tellement, par association d'idées, des tomates, même de celles comestibles, que chaque fois qu'il entendait un voyageur en commander à côté de lui, au grand hôtel, il lui chuchotait « Excusez-moi, monsieur, de m'adresser à vous sans vous connaître, mais j'ai entendu que vous commandiez des tomates. Elles sont pourries aujourd'hui. Je vous le dis dans votre intérêt, car pour moi, cela m'est égal, je n'en prends jamais. » L'étranger remerciait avec effusion ce voisin philanthrope et désintéressé. Rappelait le garçon, feignait de se raviser. « Non, décidément, pas de tomates. » Aimé, qui connaissait la scène, en riait tout seul et pensait. C'est un vieux malin que M. Bernard. Il a encore trouvé le moyen de faire changer la commande. M. Bernard, en attendant le tram en retard, ne tenait pas à nous dire bonjour à Albertine et à moi, à cause de son œil poché. Nous tenions encore moins à lui parler. C'eût été pourtant presque inévitable si, à ce moment-là, une bicyclette n'avait fondu à toute vitesse sur nous. Le lift en sauta hors d'haleine. Madame Verdurin avait téléphoné un peu après notre départ pour que je vinsse dîner le surlendemain. On verra bientôt pourquoi. Puis après m'avoir donné les détails du téléphonage, le lift nous quitta, et comme ces employés démocrates qui affectent l'indépendance à l'égard des bourgeois et entre eux rétablissent le principe d'autorité, voulant dire que le concierge et le voiturier pourraient être mécontents s'il était en retard, il ajouta « Je me sauve, à cause de mes chefs. » Les amis d'Albertine étaient partis pour quelque temps. Je voulais la distraire. À supposer qu'elle eût éprouvé du bonheur à passer les après-midi rien qu'avec moi, à Balbec, je savais qu'il ne se laisse jamais posséder complètement, et qu'Albertine, encore à l'âge, que certains ne dépassent pas, où on n'a pas découvert que cette imperfection tient à celui qui éprouve le bonheur, non à celui qui le donne, eût pu être tenté de faire remonter à moi la cause de sa déception. J'aimais mieux qu'elle l'imputât aux circonstances qui, par moi combinées, ne nous laisseraient pas la facilité d'être seuls ensemble, tout en l'empêchant de rester au casino et sur la digue sans moi. Aussi, je lui avais demandé ce jour-là de m'accompagner à Doncières, où j'irai voir Saint-Loup. Dans ce même but de l'occuper, je lui conseillais la peinture qu'elle avait apprise autrefois. En travaillant, elle ne se demanderait pas si elle était heureuse ou malheureuse. Je l'eusse volontiers emmenée aussi dîner de temps en temps chez les Verdurin, et chez les cambremères, qui certainement, les uns et les autres, eussent volontiers reçu une amie présentée par moi. Mais il fallait d'abord que je fusse certain que Madame Putbu n'était pas encore à la Raspelière. Ce n'était guère que sur place que je pouvais m'en rendre compte. Et comme je savais d'avance que, le surlendemain, Albertine était obligée d'aller aux environs avec sa tante, j'en avais profité pour envoyer une dépêche à Madame Verdurin, lui demandant si elle pourrait me recevoir le mercredi. Si Madame Putbus était là, je m'arrangerais pour voir sa femme de chambre, m'assurer s'il y avait un risque qu'elle vînt à Balbec. En ce cas, savoir quand pour emmener Albertine au loin ce jour-là. Le petit chemin de fer d'intérêt local, faisant une boucle qui n'existait pas quand je l'avais pris avec ma grand-mère, passait maintenant à Doncières-la-Goupille, grande station d'où partaient des trains importants, et notamment l'express par lequel j'étais venu voir Saint-Loup, de Paris, et y était rentré. Et à cause du mauvais temps, l'omnibus du Grand Hôtel nous conduisit, Albertine et moi, à la station de petite rame, Balbec-Plage. Le petit chemin de fer n'était pas encore là, mais on voyait, oisif et lent, le panache de fumée qu'il avait laissé en route, et qui, maintenant, réduit à ses seuls moyens de nuages peu mobiles, gravissait lentement les pentes vertes de la falaise de Criquetot. Enfin, le petit tram, qu'il avait précédé pour prendre une direction verticale, arriva à son tour, lentement. Les voyageurs qui allaient le prendre s'écartèrent pour lui faire place, mais sans se presser, sachant qu'ils avaient affaire à un marcheur débonnaire, presque humain, et qui, guidé comme la bicyclette d'un débutant, par les signaux complaisants du chef de gare, sous la tutelle puissante du mécanicien, ne risquait de renverser personne, et se serait arrêté où on aurait voulu. Ma dépêche expliquait le téléphonage des Verdurin, et elle tombait d'autant mieux que le mercredi, le surlendemain se trouvait être un mercredi, était jour de grand dîner pour Madame Verdurin, à la Raspelière comme à Paris, ce que j'ignorais. Madame Verdurin ne donnait pas de dîner, mais elle avait des mercredis. Les mercredis étaient des œuvres d'art. Tout en sachant qu'ils n'avaient leur pareil nulle part, Madame Verdurin introduisait entre eux des nuances. « Ce dernier mercredi ne valait pas le précédent, » disait-elle. « Mais je crois que le prochain sera un des plus réussis que j'ai jamais donné. » Elle allait parfois jusqu'à avouer « Ce mercredi n'était pas digne des autres. En revanche, je vous réserve une grosse surprise pour le suivant. » Dans les dernières semaines de la saison de Paris, avant de partir pour la campagne, la patronne annonçait la fin des mercredis. C'était une occasion de stimuler les fidèles. « Il n'y a plus que 3 mercredis. Il n'y en a plus que 2. » disait-elle du même ton que si le monde était sur le point de finir. « Vous n'allez pas lâcher mercredi prochain pour la clôture. » Mais cette clôture était factice, car elle avertissait « Maintenant, officiellement, il n'y a plus de mercredi. C'était le dernier pour cette année. Mais je serai tout de même là le mercredi. Nous ferons mercredi entre nous. Qui sait ? Ces petits mercredis intimes, ce seront peut-être les plus agréables. » À la Raspelière, les mercredis étaient forcément restreints. Et comme, selon qu'on avait rencontré un ami de passage, on l'avait invité tel ou tel soir, c'était presque tous les jours mercredi. Je ne me rappelle pas bien le nom des invités, mais je sais qu'il y a Madame la Marquise de Camembert, m'avait dit le lift. Le souvenir de nos explications relatives aux cambremères n'était pas arrivé à supplanter définitivement celui du mot ancien, dont les syllabes familières et pleines de sens venaient au secours du jeune employé quand il était embarrassé pour ce nom difficile, et était immédiatement préféré et réadopté par lui. Non pas paresseusement et comme un vieil usage indéracinable, mais à cause du besoin de logique et de clarté qu'elle satisfaisait. Nous nous hâtâmes pour gagner un wagon vide où je pusse embrasser Albertine tout le long du trajet. N'ayant rien trouvé, nous montâmes dans un compartiment où était déjà installée une dame, à figure énorme, laide et vieille, à l'expression masculine, très endimanchée, et qui lisait la Revue des Deux Mondes. Malgré sa vulgarité, elle était prétentieuse dans ses goûts, et je m'amusais à me demander à quelle catégorie sociale elle pouvait appartenir. Je conclus immédiatement que ce devait être quelque tenancière de grande maison de filles, une maquerelle en voyage. Sa figure, ses manières le criaient. J'avais ignoré seulement jusque-là que ces dames lussent la Revue des Deux Mondes. Albertine me la montra, non sans cligner de l'œil en me souriant. La dame avait l'air extrêmement digne. Et comme, de mon côté, je portais en moi la conscience que j'étais invitée pour le lendemain, au point terminus de la ligne du petit chemin de fer, chez la célèbre Madame Verdurin, qu'à une station intermédiaire j'étais attendue par Robert de Saint-Loup, et qu'un peu plus loin j'aurais fait grand plaisir Madame de Cambremer en venant habiter Féterne. Mes yeux pétillaient d'ironie en considérant cette dame importante qui semblait croire qu'à cause de sa mise recherchée, des plumes de son chapeau, de sa Revue des Deux Mondes, elle était un personnage plus considérable que moi. J'espérais que la dame ne resterait pas beaucoup plus que M. Nissim Bernard et qu'elle descendrait au moins à Toutainville. Mais non. Le train s'arrêta à Èvreville, elle resta assise. De même à Montmartin-sur-Mer, à Parville-la-Bingard, à Incarville, de sorte que, de désespoir, quand le train eut quitté Saint-Frichou, qui était la dernière station avant Doncières, je commençais à enlacer Albertine sans m'occuper de la dame. À Doncières, Saint-Loup était venu m'attendre à la gare. « Avec les plus grandes difficultés, me dit-il, car, habitant chez sa tante, mon télégramme ne lui était parvenu qu'à l'instant, et il ne pourrait, n'ayant pu arranger son temps d'avance, me consacrer qu'une heure. Cette heure me parut, hélas, bien trop longue, car, à peine descendue du wagon, Albertine ne fit plus attention qu'à Saint-Loup. Elle ne causait pas avec moi, me répondait à peine si je lui adressais la parole, me repoussa quand je m'approchais d'elle. En revanche, avec Robert, elle riait de son rire tentateur, elle lui parlait avec volubilité, jouait avec le chien qu'il avait, et tout en agaçant la bête, frôlait exprès son maître. Je me rappelais que, le jour où Albertine s'était laissée embrasser par moi pour la première fois, j'avais eu un sourire de gratitude pour le séducteur inconnu qui avait amené en elle une modification si profonde et m'avait tellement simplifié la tâche. Je pensais à lui maintenant avec horreur. Robert avait dû se rendre compte qu'Albertine ne m'était pas indifférente, car il ne répondit pas à ses agaceries, ce qui l'a mis de mauvaise humeur contre moi. Puis il me parla comme si j'étais seule, ce qui, quand il l'eut remarqué, me fit remonter dans son estime. Robert me demanda si je ne voulais pas essayer de trouver, parmi les amis avec lesquels il me faisait dîner chaque soir à Doncières, quand j'y avais séjourné, ceux qui y étaient encore. Et comme il donnait lui-même dans le genre de prétention agaçante qu'il réprouvait, « À quoi ça te sert-il d'avoir fait du charme pour eux avec tant de persévérance, si tu ne veux pas les revoir ?» Je déclinai sa proposition, car je ne voulais pas risquer de m'éloigner d'Albertine, mais aussi parce que maintenant j'étais détachée d'eux, c'est-à-dire de moi. Nous désirons passionnément qu'il y ait une autre vie où nous serions pareils à ce que nous sommes ici-bas. Mais nous ne réfléchissons pas que, même sans attendre cette autre vie, dans celle-ci, au bout de quelques années, nous sommes infidèles à ce que nous avons été, à ce que nous voulions rester immortellement. Même sans supposer que la mort nous modifia, plus que ces changements qui se produisent au cours de la vie, Si, dans cette autre vie, nous rencontrions le moi que nous avons été, nous nous détournerions de nous, comme de ces personnes avec qui on a été liés, mais qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Par exemple, les amis de Saint-Loup qu'il me plaisait tant chaque soir de retrouver au Faisan Doré, et dont la conversation ne serait plus maintenant pour moi qu'importunité et que gêne. À cet égard, parce que je préférais ne pas aller y retrouver ce qui m'y avait plu, une promenade dans Doncière aurait pu me paraître préfigurer l'arrivée au paradis. On rêve beaucoup du paradis, ou plutôt de nombreux paradis successifs, mais ce sont tous, bien avant qu'on ne meure, des paradis perdus, et où l'on se sentirait perdu. Il nous laissa à la gare. « Mais tu peux avoir près d'une heure à attendre, » me dit-il. « Si tu passes ici, tu verras sans doute mon oncle Charlu, qui reprend tantôt le train pour Paris, 10 minutes avant le tien. Je lui ai déjà fait mes adieux parce que je suis obligée d'être rentrée avant l'heure de son train. Je n'ai pu lui parler de toi, puisque je n'avais pas encore eu ton télégramme. » Au reproche que je fis à Albertine quand Saint-Loup nous eut quittés, elle me répondit qu'elle avait voulu, par sa froideur avec moi, effacer à tout hasard l'idée qu'il avait pu se faire si, au moment de l'arrêt du train, il m'avait vu pencher contre elle et mon bras passé autour de sa taille. Il avait, en effet, remarqué cette pose. Je ne l'avais pas aperçue. Sans cela, je me fusse placée plus correctement à côté d'Albertine. Et avais-tu le temps de me dire à l'oreille « C'est cela, ces jeunes filles si pimbèges dont tu m'as parlé, et qui ne voulaient pas fréquenter Mademoiselle de Stermaria parce qu'elle lui trouvait mauvaise façon. » J'avais dit en effet à Robert, et très sincèrement, quand j'étais allée de Paris le voir à Doncières, et comme nous reparlions de Balbec, qu'il n'y avait rien à faire avec Albertine, qu'elle était la vertu même. Et maintenant que, depuis longtemps, j'avais par moi-même appris que c'était faux, je désirais encore plus que Robert crût que c'était vrai. Il m'eût suffi de dire à Robert que j'aimais Albertine. Il était de ces êtres qui savent se refuser un plaisir pour épargner à leur ami des souffrances qu'ils ressentiraient encore si elles étaient les leurs. « Oui, elle est très enfant, mais tu ne sais rien sur elle ?» ajoutai-je avec inquiétude. « Rien, sinon que je vous ai vu poser comme deux amoureux. »« Votre attitude n'effaçait rien du tout, » dis-je à Albertine quand Saint-Loup nous eut quittés. « C'est vrai, » me dit-elle, « j'ai été maladroite, je vous ai fait de la peine, j'en suis bien plus malheureuse que vous. Vous verrez que jamais je ne serai plus comme cela. Pardonnez-moi, » me dit-elle en me tendant la main d'un air triste. À ce moment, du fond de la salle d'attente où nous étions assis, je vis passer lentement, suivi à quelque distance d'un employé qui portait ses valises, Monsieur de Charlus.